Parents Live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur? Racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 18e direct de Parents Live. Ça y est, on est majeur. Ça y est, Flo, ça fait plaisir. On est majeur, mais je sais pas si on a gagné vraiment en maturité, mais j'espère qu'on va continuer à se marrer. En tout cas, bonjour Flo.
Salut Greg, ça roule ?
Ouais, ça roule bien. Et toi ?
Ça va.
Nickel. Alors, aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, on aborde avec nos invités le burn-out parental. Ce moment où, en fait, la charge parentale, la charge éducative, elle vient peser trop lourd et elle nous vide, en fait, du plaisir qu'on va passer en famille. C'est un phénomène qui est un enjeu de santé publique, qui est de plus en plus médiatisé, notamment depuis les confinements successifs, et qui commence à être bien étudié, mieux compris, et puis qui bénéficie de programmes de recherche autour du diagnostic, de l'accompagnement et de la prévention. Comme en témoignent les ateliers burn-out, dont on va parler, qui sont proposés en France actuellement, par l'Observatoire du soutien à la parentalité et de la parentalité, et qui se sont tenus entre autres par la CAF et par l'UDAF, mais on en reparlera. Donc comme toujours chez Parents Live, on va écorner l'image de la famille parfaite, hein. Papa, maman, les enfants, propres, bien coiffés, qui sentent bon et souriants et reposés. Ben non, ça marche pas. On compte plus les sketchs, les articles, les comptes Instagram qui assument et qui visibilisent le côté un peu relou et cradingue de la vie de famille. N'empêche que ça reste comme toujours un peu compliqué quand on nous annonce une grossesse de dire « Faites gaffe, ça va être vraiment chaud, quoi. » Genre le visage dévasté. Mais toujours est-il qu'on entend plutôt des félicitations, des « c'est merveilleux », du « vous verrez, c'est que du bonheur ». Et puis en fait, c'est pas vrai et surtout, en fait, c'est pas possible. Comme l'écrivent Moira Mikolajak et Isabelle Roskam dans un ouvrage qui s'appelle « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir », dont je reparlerai beaucoup pendant l'émission parce que je m'en suis beaucoup inspirée. L'expérience en fait de la parentalité, c'est une équation impossible parce qu'en fait, on a plus de facteurs de stress, mais on a beaucoup moins de sources pour le gérer, ce stress. Donc je vois dans le studio, ça fait comme ça, et tout le monde opine.
Ça acquiesce déjà.
Voilà. Donc on fait comment ? C'est ce qu'on va discuter avec nos invités que tu vas nous présenter, Greg.
Ouais, avec nous pour en parler du côté des parents, nous avons Chloé. Bonjour.
Bonjour.
Maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Aurélie, qui est la maman de deux filles de 9 et 7 ans. Bonjour.
Bonjour.
Et on a aussi en visio Sébastien, dont les deux garçons ont 9 et 12 ans. Bonjour. Est-ce que tu nous entends, Seb ?
Parfait.
Eh ben nickel, nous aussi on t'entend, c'est nickel. Côté pro, nous accueillons Aurélie Paldacci, coordinatrice du projet de recherche Parents Burnout à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Et nous entendrons également des extraits de l'interview que t'as accordé, Flo Aurélie Gaucher, professeure en psychologie de la santé à l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui participe également au projet Parents Burnout, membre de l'OPSP, l'Observatoire Parentalité et de soutien à la parentalité. Flo, on va entamer notre première partie.
Entaché.
On va entamer notre première partie de cette émission.
Oui, alors on va se poser la question de comment ce burn-out parental, et d'abord cet épuisement, on le repère et puis ensuite on le diagnostique. Et puis on va écouter ce que m'en a dit justement Aurélie Gaucher quand je l'ai interviewée.
Alors l'épuisement parental, déjà c'est peut-être important de replacer un peu le contexte. C'est un terme aujourd'hui dont on parle de plus en plus, mais finalement ça fait longtemps que ça existe, mais c'est peut-être encore plus présent depuis quelques années. Alors évidemment ça a explosé encore davantage avec le confinement, donc ça a été encore plus un catalyseur, mais néanmoins c'était déjà présent avec notamment les femmes qui travaillent de plus en plus, donc qui aussi deviennent un peu plus égalitaires par rapport aux hommes, et puis de l'autre côté les hommes aussi qui sont égalitaires par rapport aux femmes, puisque eux aussi vont de plus en plus mettre la main à la pâte dans l'éducation, et on voit que ces échanges un peu de rôles sociaux vont parfois aussi générer finalement de l'épuisement de part et d'autre. Et donc, on a aussi de plus en plus de familles qui sont soit monoparentales ou soit qui sont éloignées de leurs parents. Donc, il n'y a plus les grands-parents qui peuvent être présents et fournir de l'aide comme ça pouvait être le cas avant. Donc, parfois, on veut avoir un enfant qui soit parfait, qui fasse beaucoup d'activités, qui soit extrêmement épanoui, développé. Et donc, tout ça va faire qu'on met la pression en fait sur les parents. La société met la pression sur les parents qui veulent tout mener de front, leur travail, leur carrière et puis évidemment leur propre développement et le développement de leurs enfants. Et ça va donner parfois, dans certains cas, surtout quand on veut justement trop bien faire, quand il y a un fort perfectionnisme, eh bien de l'épuisement parental. Et donc le fait d'être épuisé, eh bien ça va se manifester par justement une moindre envie finalement de s'occuper de ses enfants, donc un épuisement, une lassitude par rapport à son rôle de parent. On a moins envie de s'occuper des enfants. En tout cas, c'est, on le fait par obligation, mais plus par plaisir. Et donc ça va vraiment caractériser l'épuisement parental.
Merci Aurélie pour cette introduction. En fait, on parle vraiment du burn-out parental quand l'épuisement il entraîne. Donc l'épuisement, c'est la première chose qui arrive. Et puis ensuite, ça entraîne, elle le disait Aurélie, une distance affective avec son enfant. Et puis aussi un sentiment d'inefficacité parentale. Ça veut dire qu'on se sent plus compétent en tant que parent. On a l'impression qu'on va plus y arriver. Et puis ce qui peut mettre aussi la puce à l'oreille, c'est le contraste qu'il va y avoir entre le parent qu'on est devenu et puis celui qu'on était. C'est qu'on se reconnaît plus. Donc ça, c'est vraiment les quatre choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille pour se dire là, soit j'entame un burn-out parental, soit je suis limite, quoi. Et puis Aurélie Gaucher, elle souligne un truc moi qui me paraît super important, c'est le rôle du contexte, notamment la pression sociale. Elle dit entre l'envie de bien faire et puis la peur de mal faire, en fait, en tant que parent, on croule sur les injonctions. On a un peu cette culpabilité qu'on va traumatiser, qu'on va stresser son enfant, qu'on va pouvoir compromettre son développement intellectuel, affectif. Et tout ça, c'est des sources de stress, en fait. Et elles expliquent ça bien, Isabelle et Moira, dans leur livre. Elle dit qu'en fait, c'est... avant, on ne se posait pas toutes ces questions, et c'est vrai. Ce n'est pas un truc de vieux de dire « Ah ben ouais, avant, on ne se disait pas comment on va gérer une colère ou quoi que ce soit. » Mais c'est que depuis 1989, en fait, qu'il y a eu la Convention des droits de l'enfant, qui ont vraiment mis en avant ce qu'il en était des besoins des enfants et qui ont mis en face, en fait, les responsabilités qui incombaient aux parents et qui ont entraîné un petit peu cette surresponsabilisation du rôle des parents qui peut devenir néfaste à un moment donné. Bien sûr qu'il faut s'investir auprès de son enfant, mais on verra le surinvestissement, c'est ce qui peut entraîner l'épuisement puis le burn-out. Voilà.
On verra ça tout à l'heure.
Exactement.
Donc, yes. De votre côté, Chloé, Aurélie, comment et dans quel cadre cet épuisement s'est manifesté pour vous ?
C'était dans mon cadre familial. En fait, j'ai glissé tout doucement, je ne l'ai pas vu tout de suite, il m'a fallu du temps. Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que je n'ai pas identifié au début, donc ça a été assez lent. Et j'ai commencé à le voir parce que j'avais plus de plaisir, ça devenait tout automatique. J'étais passée en mode organisationnel et plus ce côté le plaisir, la découverte, le partage. J'étais beaucoup sur les tâches, d'un point de vue automatique. Et puis après, tout devenait pénible, le fait de prendre soin de moi, de faire quelque chose, tout devenait très très lourd. Donc j'avais plus plaisir au quotidien. Voilà, et une profonde tristesse qui s'installait petit à petit. Voilà comment ça s'est manifesté pour ma part.
D'accord. Merci, Chloé.
Moi, je ne l'ai pas eu aussi fort, mais moi, j'ai eu une situation particulière parce que nous, on a été à l'hôpital. Enfin, notre fils, elle était à l'hôpital. Et ensuite, mon conjoint est parti travailler à l'étranger. Donc, en fait, je me suis retrouvée à la sortie de la maternité. Je me suis retrouvée toute seule. L'enfant n'avait même pas 15 jours. Et je me suis retrouvée d'un coup, toute seule, propulsée avec... on ne nous avait pas appris à prendre le bain, des choses comme ça. Donc, moi, ça a été plus, comme tous les parents, le manque de sommeil, beaucoup de choses, ne pas avoir de deuxième bras à qui donner. Et donc, je me rejoins dans la description, c'est-à-dire, moi, j'avais encore, c'est amour maternel, j'aime pas dire ça, mais j'avais encore cette envie d'aimer mon enfant, mais cette profonde fatigue et le fait de me sentir vraiment seule, ça a été extrêmement violent et moi, j'ai eu des pensées terriblement négatives. Alors, ça reste des pensées et maintenant, j'ai fait le travail et on me dit que c'est beaucoup plus souvent que ce qu'on dit. Mais l'envie de jeter l'enfant, l'envie de se jeter soi, la fatigue, on devient des animaux quand on devient vraiment, on est sur les nerfs et donc. Donc moi, ça s'est traduit plutôt comme ça, un sentiment d'inefficacité, de pas avoir le temps de rien faire. D'avoir constamment cet enfant contre soi et l'impression de pas savoir faire, alors qu'en vrai, j'avais un bébé qui pleurait, mais je le portais, je pense que je répondais quand même à ses besoins avec le recul, je pense que je répondais quand même à ses besoins, mais cette impression de pas y arriver en fait, et moi c'était des pensées très négatives.
Avec la culpabilité sûrement, et ouais. qui était qui continuait à nourrir un peu ce stress.
Ouais,
quoi.
Voilà. Et puis bon, bah, de l'énervement, mais ça c'est l'idée qu'on nous a pas prévenu, quoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que je trouve que voilà, l'idée qu'on nous a pas prévenu et qu'on nous laisse tout seul, quoi.
On vous prévient voilà. Les autres parents. Sébastien qui est en visio avec nous. Pour vous, Sébastien, comment vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème? Quels ont été les signes les plus marquants?
Alors déjà pour préciser, là je j'interviens en tant que conjoint témoin d'un burn-out. C'est ma femme qui a fait un burn-out il y a à peu près 6 ans, okay. Quand nos garçons avaient 2 ans et demi et 6 ans. Et effectivement, pour rejoindre ce qui avait été dit avant, en tout cas pour ma femme, ça a été les signes très clairement d'une fatigue structurelle. De plus en plus de nervosité au quotidien, que ça soit envers elle-même, envers les enfants et envers moi-même. donc voilà, et on s'est aperçu à un moment qu'il y avait une solution à mettre en place, et je pense qu'on n'a pas forcément mis en place la bonne solution parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'elle elle a demandé un temps partiel, elle est passée à 80%. Mais ce qui a été totalement une mauvaise solution, parce que le 80% de manière factuelle est resté un 100% pour son employeur, qu'on l'a un petit peu fait culpabiliser sur le fait qu'elle soit en temps partiel et sa charge à la maison n'avait pas forcément réduit. Donc je dirais qu'on a mis cette solution en place et il y a un moment, le catalyseur a été pour ma femme un sujet de harcèlement avec son N+1 qui a fait que tout a explosé subitement. Donc voilà un petit peu c'est il y a 6 ans, mais en tout cas je retrouve les éléments dont on parlait, c'est une fatigue structurelle, de la nervosité et difficulté pour ma femme aussi, je dirais, de prendre du temps pour elle, parce que je constate, si je vais me permettre de généraliser dans cette émission, mais je constate autour de moi, que ça soit ma femme ou nos amis, les femmes ont cette capacité d'être un peu des superwoman à tout vouloir gérer sans forcément prendre de temps pour elle, et ce qui était je pense le cas à l'époque. Alors c'est évolué depuis, on en parlera, mais voilà un petit peu la situation qu'on a connue à l'époque.
Ouais, donc on est bien d'accord que les femmes encore à l'heure actuelle sont socialisées pour s'occuper, pour prendre soin. Les hommes le sont beaucoup moins et c'est là justement que se situent les enjeux, notamment on en reparlera autour de la question de la place des pères et de l'exposition Parents Live qu'on a actuellement justement pour introduire des rapports plus égalitaires au sein de l'équipe parentale. Pour compléter, Isabelle Roskam et Moira Mikolayak, elles notent plusieurs facteurs de risque. Donc on en a parlé, l'isolement, le manque de relais. Il faut prendre en compte aussi les fragilités personnelles. On n'est pas tous forcément armés pareil pour faire face au stress. La personnalité de son enfant aussi, on peut avoir des enfants plus faciles ou moins faciles, plus récalcitrants, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, etc. Et tous ces éléments, ils viennent en fait peser dans la balance. La question du diagnostic du burn-out parental, elle est cruciale parce qu'il faut que les professionnels qui entourent les parents soient formés pour le repérer, pour offrir un accompagnement. Et puis, donc ça, on va en parler avec Aurélie parce que l'OPSP, donc l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité, propose des formations justement pour les professionnels. Oui. Donc, si tu veux nous en parler un petit peu.
Peut-être je présente l'Observatoire de la parentalité, du soutien à la parentalité.
Alors, on le fera dans la troisième partie. Et puis, à ce moment-là, est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer les formations qui sont actuellement mises en place ou qui vont être mises en place pour les professionnels, pour diagnostiquer le burn-out?
Alors, donc, il y a une formation professionnelle en ligne qui a été conçue par justement les deux chercheuses belges, Isabelle Roskam et Moira Mikolayak. Il s'agit donc d'une formation en ligne de 90 jours, composée de 2 modules. Donc le premier, c'est sur le diagnostic, et le deuxième, c'est sur le traitement du burn-out parental.
D'accord, très bien. Et je crois qu'en 2024, il va y avoir un DU également qui va être mis en place à l'UGA. Pour les professionnels.
Oui, en effet, à l'issue donc du projet de recherche visant la prévention de l'épuisement parental, l'idée c'est justement de pouvoir proposer des formations et des outils validés scientifiquement et fondés sur des données probantes, notamment la création d'un diplôme universitaire à l'université de Grenoble.
Super. Pour la question de savoir où on en est soi-même aussi par rapport au burn-out parental, donc dans le livre de Moira et d'Isabelle, on a un test qu'on peut faire. Ce test, il est également disponible en ligne sur le site burnoutparental.com ou via l'application Dr Mood. Et il permet vraiment de déterminer son niveau d'épuisement et puis il donne des pistes pour éviter que la situation elle empire. Et puis, ces tests, ça permet aussi de visibiliser ou de se rendre compte de choses dont on ne se rend pas forcément compte. Parce qu'en tant que parent, on peut se culpabiliser ou même avoir honte ou dire « mais c'est pas normal, c'est normal en fait d'avoir à s'occuper d'un enfant, pourquoi j'y arrive pas, etc. » Et Isabelle et Moret, elles montrent que c'est souvent les personnes qui avaient le plus idéalisé la parentalité, qui s'étaient le moins préparées aux difficultés, qui vont en fait être le plus susceptibles d'être épuisées. Et comme le disait Aurélie Gaucher, qu'il y a vraiment un lien entre perfectionnisme, surinvestissement et épuisement. Et du coup, de votre côté, Aurélie et Chloé, est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à reconnaître ? Enfin, vous en avez parlé un petit peu, Aurélie, que ça a été un processus long. Mais Chloé, est-ce que ça a été compliqué de reconnaître ça ?
Oui, moi je me retrouve complètement dans l'idée du perfectionnisme. Je travaillais beaucoup, j'étais cadre supérieur, je faisais de la gestion de projet et j'ai vu vraiment ma grossesse comme un projet. Donc j'ai fait des choses à côté, épinaux, je me suis intéressée à l'autonomie, à comment accoucher. Et je ne m'étais pas du tout intéressée et je ne me suis pas posé les bonnes questions sur le après, après l'accouchement. Donc je l'ai vu comme un projet avec à terme l'accouchement et je ne l'ai pas vu comme le projet après avec l'enfant. Et donc du coup, oui, je pense que ça a été ça la première claque, de se dire j'avais idéalisé ce qu'on nous montre à la télé, on va dire ça simple, hein, mais en gros l'image qu'on nous renvoie, enfin en tout cas ma génération renvoie ma génération, parce que ça évolue, je trouve ça très bien. Mais voilà, l'image belle, que c'est facile, il suffit de mettre l'enfant au sein et ça marche direct. Donc ça, oui. Après, sur comment on s'en est rendu compte, moi, je m'en suis rendu compte vite, parce que le fait d'être seule, j'ai cru, alors je vais peut-être rejoindre un peu Sébastien, j'ai cru que la solution, c'était d'autres bras. Donc je suis allée voir mes parents, en gros, on va être simple. Donc je suis allée voir mes parents et je leur ai demandé de l'aide. Sauf que eux-mêmes n'étaient pas prêts à être grands-parents, ils n'étaient pas prêts eux-mêmes à gérer un petit enfant qui pleure tout le temps. Et en termes de sécurité de la maison, enfin plein de choses. Donc du coup, c'est pareil, je vous rejoins, si on n'est pas tous armés. Et moi, j'ai fait un cri à l'aide et en fait, c'est pas tombé sur les bonnes personnes. Voilà, c'est pas grave, maintenant c'est fait, on refait différemment. Mais et du coup, oui, ça a été pire en fait. Enfin, la solution a été pire parce que ça a été des embrouilles, des choses. Enfin voilà, ça a créé des histoires de famille, donc c'était pas mieux. Mais je m'en suis rendu compte. Donc après, faut en tirer les enseignements. C'est pour ça qu'on est là.
Des petites erreurs, des fois.
Ouais,
c'est
ça.
Pour grandir.
Et vous, Sébastien, comment. Peut-être que vous avez. Vous dites que c'est pas vous qui avez fait le burn-out, c'est votre compagne. Vous avez sûrement dû peut-être la prévenir, tirer des petites sonnettes d'alarme. Comment elle réagissait, votre compagne ?
Alors. Là, je ferais plutôt référence à une situation récente où j'estimais que ma femme, à nouveau, était proche du burn-out. Et donc, je lui ai, de manière subtile, rappelé qu'elle avait connu ça il y a quelques années. Et comme elle avait déjà eu cette expérience, je pense qu'elle était plus sensible au sujet. Et elle a accepté d'aller voir, une recommandation que j'avais, elle a accepté d'aller voir une hypnothérapeute. Très récemment, et elle s'est également, elle a fait un long week-end, elle s'est pris 4 jours pour faire un week-end de yoga. Donc, autant il y a 6 ans, je pense que, comme disait Chloé, on n'était pas du tout alerté sur le sujet et on n'a pas vu la chose venir, autant cette fois, 6 ans après, parce qu'on a connu ça, je peux pas dire on, c'est plutôt ma femme, mais bon, je l'ai accompagnée. Parce qu'on a connu ça et qu'on a été sur le sujet, moi j'ai vite levé la main et elle avait déjà conscience de ça et elle a accepté d'aller demander de l'aide à l'extérieur, chose qui avait été difficile pour elle il y a 6 ans, même après son burn-out. Donc je trouve que même, en tout cas, elle a appris, on a appris, je pense que culturellement, parce qu'on est plus alerté, parce que je pense aussi le fait d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, psychologue, c'est beaucoup plus ancré aujourd'hui. Je pense que il est plus facile de répondre aux symptômes d'un potentiel burn-out.
Merci Sébastien.
Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, sur la difficulté de reconnaître et d'assumer peut-être qu'on n'est pas bien, qu'on n'y arrive pas ?
J'ai pas eu ce luxe dans le sens où un matin, j'ai pas pu me lever. Donc c'était difficile d'ignorer ce qui se passait. Alors mon mari n'a pas trop compris parce que j'étais très très maligne pour cacher tout ce qui se passait en moi parce que c'était un peu une preuve d'échec en fait, d'admettre qu'on n'y arrive pas. Et moi je me faisais un point d'honneur à ce que quand il rentre, tout soit prêt, qu'il se sente bien, qu'il n'ait plus qu'à câliner sa fille et pas à se préoccuper de l'aspect organisationnel. Mais j'ai eu la chance que finalement mon corps m'ait parlé de façon assez significative, mais m'a dit en fait... Tu vas rester dans ton lit parce que tu n'es pas capable de faire autre chose aujourd'hui. Mon mari m'a dit, mais tu es malade. J'ai dit, oui, mais non, c'est plus profond. Et étant donné que j'avais bien caché tout ça, il a mis du temps à comprendre, même ma famille, parce qu'en fait, eux, ils voyaient qu'un petit peu et ils ont compris. Il y avait un repas de famille, j'ai pleuré. C'était assez violent, mais du coup, ça m'a rendu service dans le sens où je ne pouvais pas ignorer les signes, en fait.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
Si je peux juste intervenir, ouais, pour relayer ce que tu disais. Enfin, moi, je note aussi quand même la violence du burn-out quand ça arrive. C'est-à-dire qu'on passe de la fatigue, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, et subitement tout craque. Mais moi, j'ai vraiment découvert la violence de la chose et que c'est pas facile à anticiper parce que c'est vraiment soudain et violent.
Mmh, exactement.
D'accord.
Très bien. Flo, je te propose de faire une petite pause musicale après cette première partie de cette émission. Vous êtes bien dans Parents Live numéro 18, consacré à l'épuisement parental, le burn-out parental, avec nos invités en visio et en studio. On se fait une petite pause, on revient juste après pour cette 18e édition de Parents Live. Restez avec nous.
Thank you. Louise FM.
On est de retour après cette petite pause musicale dans notre émission Parents Live avec Flo, consacrée aujourd'hui à l'épuisement parental, au burn-out parental, Flo. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va parler traitement et accompagnement. Comment on accompagne et on traite le burn-out parental, Flo?
Eh bien, on va juste faire un petit point pour les gens qui nous regarderaient éventuellement sur le live Instagram. Je vois qu'il y a un petit problème technique, il faut légèrement...
Voilà, tournez votre téléphone,
tournez les amis. Votre téléphone pour, voilà. Pour pouvoir nous suivre en mode paysage. voilà. Et puis, refaire juste un petit point. Il y a Aurélie de l'OPSP qui me disait en aparté, là, pendant la pause, que vraiment, le signe, les premiers signes du burn-out parental, c'est vraiment l'épuisement physique. Donc, voilà, écoutez votre corps. Alors voilà, comment on le traite, comment on accompagne ce burn-out parental? Et ben on va commencer par nos invités, hein, Aurélie, Chloé. Quels éléments vous avez identifiés comme facilitants, comme aidants pour reprendre pied? Qu'est-ce que vous avez mis en place?
Alors moi, je peux pas vraiment dire pour reprendre pied au sens large. Par contre, je me rappelle très très bien d'un épisode où voilà, j'étais au fond du trou et c'est la femme, enfin une visite de la belle famille, comme quoi des fois. Donc c'est ma belle-tante et les cousines de mon conjoint qui sont venues un soir et bon, il y a eu plein de péripéties, ils sont arrivés en retard, etc., etc. Donc du coup voilà, je te rejoins Aurélie. J'avais espéré préparer la maison, etc., etc. Évidemment, ça se passe pas comme on veut. Et quand ils sont arrivés, en fait, ils sont arrivés avec le repas tout fait, une grosse marmite. Et en fait, mon enfant à ce moment-là avec les coliques, donc ça hurlait, c'était absolument insupportable, je n'en pouvais plus. Et en fait, elles m'ont baladé l'enfant toute la soirée dans les bras à tour de rôle. Et donc, elles m'ont forcé, elles m'ont dit « Non, là tu t'assois, tu te poses, tu manges. » Et donc du coup, ce fait d'avoir une personne en face de moi, un adulte, c'est-à-dire parler avec un adulte, et ne pas m'occuper, alors ça reste dans l'esprit, mais avoir un adulte qui balade l'enfant autour de moi, il continue à pleurer, hein, mais juste à le balader autour de moi, et avoir un autre adulte avec qui parler en face et se poser autour d'une table, moi ça a été mon élément déclencheur. C'est là où je me suis dit, il y a un problème, c'est ça qui te manque et il faut régler, quoi. Donc voilà.
D'accord. Et par la suite, vous avez réussi justement à mettre en place des relais?
Ça, c'était la théorie. La pratique était un peu plus compliquée, mais ça a été quand même un élément déclencheur. Donc, je pense que c'est ce que tu disais sur le corps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'écouter. Et le corps nous envoie plein de signaux. Enfin, on est dans une société où on ne valorise pas forcément le corps. On valorise plutôt l'esprit. Et l'esprit, lui, il essaye toujours de cacher, de trouver une solution. Donc, du coup, voilà. Je pense que c'est surtout, on en avait beaucoup parlé en atelier, c'est surtout les éléments déclencheurs, en fait. Et on en avait tous chacun. Moi, c'est celui-là qui a été mon élément déclencheur et qui te fait prendre conscience qu'il y a un problème et qu'il faut trouver une solution. Alors après, voilà, la solution, ça dépend des personnes. Comme dit Sébastien, on ne l'a pas toujours du premier coup. Mais par contre, l'élément déclencheur, je pense qu'il est... lui, on l'a, quoi. Il faut l'écouter.
D'accord.
Enfin, je sais pas.
De votre côté, Aurélie?
Pour ma part, l'élément déterminant, ça a été ma famille. Parce qu'à la base, je le faisais pour eux quand même. C'était dommage parce que je sabotais finalement ma famille. Donc c'est de voir la tristesse de mon mari et de ma petite fille qui avait 1 an. C'est ce qui m'a fait réagir, en fait. Je me suis dit, mais c'est totalement absurde ton comportement parce que tu vas à contre-courant. Donc ça a commencé par un travail personnel, en fait. J'ai commencé par moi-même parce que j'ai pris conscience que si je me nourrissais pas, je ne pourrais pas nourrir ni ma famille. Donc voilà, j'ai pris conscience que tout commençait par moi et qu'il fallait que je me soigne moi-même et que je mette tout à plat. Donc ça n'a pas été simple, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai encore du travail, je suis encore en chantier. Voilà, donc c'était vraiment l'élément déterminant de me dire que je le faisais pour eux, mais finalement je leur faisais plus de mal que de bien. Donc il fallait d'abord que j'apprenne à me faire du bien pour pouvoir faire du bien à l'ensemble de ma famille et qui est l'osmose que j'attendais de la famille au départ. Pour moi, la maternité, c'était cette idée d'être dans un cocon et d'être tous ensemble, les uns avec les autres bienveillants, où chacun avait son espace de liberté. Et cet espace, moi, je me le suis enlevé. Pour me consacrer à ma fille, à mon mari, ce qui est totalement absurde parce que l'élément principal, c'était moi-même. Je ne savais même plus ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer dans la vie. Donc de me reconnecter à toutes ces choses et à l'amour de la famille, c'est ce qui m'a réveillée quelque part. Voilà.
D'accord. Et Sébastien, vous, de votre côté, en tant que conjoint, en tant qu'accompagnant, c'est quoi votre rôle selon vous? Comment vous vous êtes positionné?
Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie parce que ça fait 6 ans, mais effectivement, c'est vraiment un chantier, quoi. On se remet pas en quelques mois. Et je pense que pour ma femme, ça a bien pris trois ans, je pense, pour se remettre pleinement de son... Je ne veux pas être négatif, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de chantier, je pense qu'elle est importante. Il faut en avoir conscience pour non plus pas se fixer d'objectifs trop rapides d'aller mieux. un petit peu pour le recul. Mais moi, surtout déjà, pour commencer, c'était une vraie prise de conscience, en tout cas pour moi, que ma femme n'était pas superwoman, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc, prise de conscience qui m'a quelque part... inciter, je pense, à ce qu'on aille vers plus, et on en parle ouvertement, vers plus de partage des tâches, parce que très clairement, il y a 6 ans, j'étais concentré sur mon travail. Je prenais du temps pour moi, surtout par le sport et la méditation. Et puis, on va dire que j'ai ma famille, donc pour moi, comme on dit en anglais, job is done en tant que papa. Et on s'est aperçu dans le temps qu'il fallait quand même rééquilibrer les tâches parce que ma femme travaillait beaucoup, autant que moi, si ce n'est plus. Et qu'il fallait qu'on rééquilibre des choses à la maison. Alors, ce qui s'est fait, progressivement, parce qu'en tant que papa, avec des enfants de 2 ans et 6 ans, c'était pas le plus naturel pour moi, surtout avec le petit. Et là, j'avoue maintenant qu'ils ont 9 ans et 12 ans, entre la primaire et le début du collège, je me sens beaucoup, ma participation est beaucoup plus naturelle. Je m'occupe des devoirs, je m'occupe des activités sportives, etc. Donc, c'était plus facile pour moi en tant que père d'intervenir maintenant qu'ils sont plus grands. Et peut-être qu'étant plus jeune, il m'aurait peut-être fallu un petit accompagnement pour être plus, proactif à cette époque. Mais il y a un partage des tâches qui s'est fait. En revanche, je fais une distinction en tant que papa entre le partage des tâches et la charge mentale. Parce qu'à ce jour, même si le partage des tâches est rééquilibré, la charge mentale quand même, en ce qui concerne les enfants et la famille, c'est ma femme qui anticipe tout. Quand je vais au marché, je sais ce que je vais acheter, par exemple. C'est pas moi qui vais réfléchir à ce que je vais acheter. Donc, j'ai encore une marge de progression. On avance, mais sur la charge mentale, il y a encore un petit peu de marge de progression en ce qui me concerne. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Je dirais que le fait aussi de demander de l'aide quand même extérieure, notamment demandant l'aide d'une nounou. Donc ça a clairement changé les choses parce que les grands-parents ne sont pas à proximité. Je suis en région parisienne et les grands-parents sont près de chez vous, dans l'Isère, d'autres en Champagne. Donc, on ne pouvait pas se reposer sur les grands-parents, même si je comprends que ce n'était pas forcément facile, comme l'a dit Chloé, je crois, un peu plus tôt. On a un dialogue régulier avec ma femme sur comment est-ce qu'on peut se faire aider, comment est-ce qu'on peut s'organiser. Et enfin, comme disait Aurélie, je prends qu'il y a une prise de conscience aussi de la part de ma femme qu'elle est extrêmement importante, qu'elle est peut-être la plus importante pour pouvoir aider la famille et qu'il faut qu'elle prenne du temps pour elle, ce qu'elle a fait progressivement en se mettant au yoga, à la peinture. Elle a mis elle passe plus de temps aujourd'hui pour elle, voilà. Mais tout ça, encore une fois, pour prendre le terme de chantier que j'aime bien, tout ça a pris quand même beaucoup de temps et ça peut être complètement optimisé. Et je prends on en parle ensemble, je pense que sur la charge mentale je peux encore y participer un petit peu plus, même si je partage plus concrètement.
Très bien, donc de l'indulgence pour soi-même et puis une équipe parentale en communication et qui essaye d'avancer ensemble. Moi, la question que j'ai posée aussi à Aurélie Gaucher quand on s'est rencontrés, c'est comment on en parle à ses enfants quand on ne va pas bien comme ça. Alors, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils soient plutôt grands, qu'est-ce qu'on leur dit ? Alors, Aurélie ?
Il est là.
Souvent, les enfants, ils ont tendance à se culpabiliser très facilement. Encore plus si c'est un burn-out parental. Ils vont se dire, c'est moi qui ne suis pas assez sage, c'est moi qui ne suis pas assez gentil. Et donc, c'est important de dire que, par moment, être parent, ce n'est pas tous les jours facile non plus. Je pense que l'enfant, il peut le comprendre, qu'on fait de notre mieux pour être un bon parent et qu'il y a des moments où on peut aussi être fatigué. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser des mots simples, mais surtout faire comprendre à l'enfant, encore une fois, que ce n'est pas lui qui est responsable. C'est le fait qu'on cumule peut-être plusieurs tâches qui vont faire qu'à un moment donné, on est fatigué et puis on a besoin aussi de temps pour soi, pour se ressourcer.
Voilà, donc on y revient, du temps pour soi. Je ne sais pas qui veut intervenir.
Oui, je sais pas, Sébastien, Chloé, Aurélie, comment vous en avez parlé avec vos enfants ?
Si je peux me permettre d'intervenir, j'ai plus souvenir parce qu'il y a 6 ans, quand c'est arrivé, c'était quand même petit, donc je n'ai pas le souvenir qu'on ait parlé spécifiquement. Mais en tout cas, en termes d'expérience récente et grâce aux ateliers de prévention et de la discipline positive, je reprends ce qui vient d'être dit, mais très clairement, et je me l'applique à moi-même, je dis à mes enfants, là, je me suis énervé, grosso modo, je ne suis pas un parent idéal. Donc, je fais de mon mieux. Mais déjà le fait de leur de reconnaître mes faiblesses entre guillemets et de leur signaler, et ben je trouve que ça enlève une certaine pression par rapport à ce qu'on disait avant pour être un parent idéal. Donc oui, cette communication là, j'hésite pas à la faire.
D'accord.
Très bien. C'est comment ça s'est passé pour vous, Chloé, Aurélie? Vous en avez parlé aux enfants? Pareil, en désamorçant.
Ouais, elles étaient encore trop jeunes, peut-être.
Ouais, alors peut-être.
Cassie, ouais, avait un an, et du coup. Mais le fait de verbaliser, je rejoins totalement Sébastien, en fait, ça permet de soulager. Et quelque part, d'avoir cet espoir que l'enfant il puisse comprendre un jour, et de ne pas lui avoir caché, parce qu'on peut cacher autant, au plus profond qu'on puisse. Ils ressentent tout. C'est des éponges, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est des éponges. Et ça leur laisse aussi la possibilité de, eux, le droit à l'erreur, le droit aussi à dire bah, « je suis fatiguée, j'y arrive pas ». Et c'est aussi une ouverture dans laquelle on les amène. Donc moi, elle avait un an, j'ai pas eu ce réflexe-là. Mais maintenant qu'elle a 9 ans et que ma petite a 7 ans, je me permets, enfin, tout ce qui s'est passé auparavant, c'était une très riche expérience. Sur le moment, c'était douloureux, mais avec le recul et le chantier en progression, ça me permet, moi, de leur laisser aussi cette possibilité, cette ouverture, de leur dire « tout repose pas que sur toi, tu as le droit de te tromper ». Et personne ne sait tout faire, personne n'est parfait. Donc tu as le droit de te dire je me suis trompée, je le regrette et je vais faire mieux. Enfin, en tout cas, du mieux que je puisse avec les outils que j'ai.
D'accord. Très bien. Pour Chloé, peut-être une expérience.
Moi, c'était un peu difficile parce que alors, le vrai épuisement parental, j'ai eu quand Tylan était tout petit. Donc, du coup, il n'y a pas. Enfin, c'est à l'âge où ça ne parle pas encore.
Pas parlé,
donc,
ouais.
Du coup, on n'a pas vraiment parlé. Par contre, voilà, je travaille dans la communication, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, par contre, ça, très tôt, j'ai verbalisé. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé en atelier. Très tôt, j'ai verbalisé. Alors, il y a tout un. Je ne me rappelle plus, mais il y a tout un programme. Mais en gros, expliquer que ça vient de moi, quelles sont mes émotions et comment ça se traduit. Donc, moi, par contre, je suis beaucoup dans la verbalisation. Donc, c'est vrai que très tôt, j'ai dit maman, elle est fatiguée, maman, elle est en colère, maman, elle manque de temps, maman, elle a besoin de se reposer. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça va beaucoup mieux maintenant. Enfin, moi, il a 3 ans. Maintenant, ça, c'est un truc. Enfin, je le vois par rapport à ses petits collègues de classe. Le mien, par contre, par rapport à ça, là, ce qui a été une mauvaise expérience pour moi est devenu une très bonne expérience au final. Parce que nous, on s'écoute beaucoup dans ma famille au final maintenant. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on va se coucher. Enfin, c'est valable aussi possible pour les enfants, quoi. Quand on est fatigué, on va se coucher. On va dans le lit, on se repose, on fait un temps calme. Et voilà. Donc je le vois aujourd'hui par rapport à d'autres enfants qui partent dans tous les sens, qui courent, qui machin. Moi, le mien, il s'écoute beaucoup. Donc au final, je pense que c'est finalement, je préfère me focaliser sur ce qui est positif aujourd'hui.
Bien sûr, ouais. Dans la question du traitement, il y a la question des médicaments aussi. Donc vous le redisiez, hein, consulter, se faire aider par des professionnels, prendre des médicaments, c'est une vraie question, ça reste un peu tabou aussi. Mais il y a un compte Instagram qui donne la parole aux mères qui prennent des médicaments suite à un burn-out parental ou à une dépression postpartum, qui s'appelle le Club Med des Daronnes, et elle dit c'est ok, il ne faut pas avoir honte de se faire soigner. Moi j'ai juste la petite anecdote d'une amie qui me disait écoute, ça fait 10 ans que je suis en thérapie, ça fait je ne sais pas combien d'ateliers auxquels je participe, et là je suis sous antidépresseur depuis un mois. Et j'ai jamais connu ça de ma vie de maman, tout va bien. Donc voilà, c'est juste pour. Et moi je me suis dit, ah ouais. Et voilà, c'était étonnant aussi de se dire, bon voilà, on peut aussi accepter à un moment donné d'avoir besoin de médicaments pour aller mieux. Les recommandations que donnent Isabelle et Moira dans leur ouvrage, elles disent qu'il faut agir dans le même temps sur la réduction et sur la gestion du stress. Donc elles donnent tout un tas d'exemples dans leur bouquin autour de la médication de pleine conscience, puis on en reparlera aussi bien sûr dans la troisième partie par rapport à la prévention et par rapport aux ateliers. Et puis elle dit il faut aussi donc travailler sur la réduction de la gestion du stress et travailler aussi sur les facteurs de protection. Qu'est-ce qui est ressources, qu'est-ce qui est protection. Donc elle note la relation de couple quand on est en couple, quand elle est stable et saine, la relation à soi-même, vous en avez parlé, quand elle est apaisée, et puis aussi quand prendre soin de la relation avec ses enfants, parce que c'est quand même source d'épanouissement et de valorisation. Donc sur ces trois pôles qu'on peut avoir un peu du pouvoir et faire bouger les choses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie sur la prévention qu'on va développer donc, et dans laquelle on va présenter plus particulièrement les ateliers Être parent, ça fatigue, qui sont menés par l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité, dont nous recevons la coordinatrice, Aurélie Faldacci.
Oui, alors peut-être quelques mots pour présenter l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité, qui est un observatoire qui a été créé en 2019, pour répondre à une demande de terrain sur la question de la parentalité. Il est porté conjointement par la Maison des sciences de l'homme de l'Université Grenoble-Alpes et le Laboratoire interuniversitaire de psychologie. Notre mission est vraiment de communiquer sur les connaissances les plus récentes concernant le soutien à la parentalité auprès des parents, mais aussi auprès des professionnels. Notre mission, c'est de concevoir et d'évaluer des interventions efficaces reposant sur des données probantes et validées scientifiquement. Là, on agit dans le champ de la parentalité et plus précisément dans le champ du burn-out parental, appelé plus communément l'épuisement parental. Nous proposons des formations auprès des professionnels qui souhaitent se former à ces interventions collectives, dites les ateliers. Et nous proposons aussi des formations à peu près depuis un an qui répondent à une demande émanant des professionnels de terrain qui souhaitent améliorer leurs connaissances pour mieux comprendre le phénomène de l'épuisement parental. Plus particulièrement pour pouvoir le repérer plus rapidement. Il y a aussi donc un autre axe sur la formation, c'est de comment accompagner ces professionnels à construire une posture professionnelle favorable à l'accueil de la parole des parents concernés, pour éviter de rajouter une pression supplémentaire, renforcer une culpabilité. En tout cas, c'est un véritable levier pour orienter les parents vers des professionnels ou des structures adaptées existant sur le territoire. Peut-être aussi l'Observatoire de la parentalité a pour mission le recueil des données concernant la parentalité, ce qui permet de déployer des recherches d'action concernant la prévention et la prise en charge du burn-out.
D'accord. Pour la démarche, dans quel contexte s'inscrit la recherche, Aurélie ?
Alors, cette recherche s'inscrit particulièrement dans le cadre du projet national des politiques publiques sur l'accompagnement des 1000 premiers jours sur l'enfant.
Ok. Les 1000 premiers jours, ok.
Oui.
Très bien. Et puis pour le déploiement du actuel du projet, comment se déploie actuellement le projet, justement, quelle méthodologie ? Tu nous en as dit quelques mots.
Oui, alors peut-être pour repréciser que ce projet de recherche est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ouais.
Il s'adresse tout particulièrement aux parents de jeunes enfants. Donc avoir au moins un enfant âgé de moins de 12 ans pour pouvoir agir au maximum dans le champ de la prévention. Il a débuté en 2021 et durera 3 années. Il est piloté par la professeure de psychologie du développement Rebecca Shankland de l'Université de Lyon et la professeure de psychologie sociale en santé Aurélie Gaucher de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Peut-être pour préciser qu'il y a une équipe de 24 intervenants qui contribuent à ce projet pour animer ces ateliers de soutien à la parentalité qui sont déployés sur plusieurs territoires en France. La méthodologie repose sur une méthode de recherche scientifique visant à recueillir à la fois des données quantitatives via des questionnaires, qualitative via un bilan qui se déroule une semaine après les ateliers et des mesures aussi physiologiques, notamment le cortisol capillaire et la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc peut-être pour bénéficier au maximum des bénéfices de ces ateliers, nous demandons aux parents de s'engager à suivre un cycle de 8 ateliers de 2 heures hebdomadaires, donc sur 8 semaines consécutives à raison de 2 heures par semaine.
Très bien. Flo, il y avait d'autres questions peut-être aussi pour.
Oui, les objectifs en fait et les publics visés par ces ateliers.
C'est important de repréciser que cette étude cible la population en général. Donc ces ateliers sont adressés à tous les parents de jeunes enfants, donc à la fois pour ceux qui s'inscrivent dans une démarche de prévention, ceux qui sont actuellement débordés, fatigués, mais aussi pour ceux qui s'inscrivent dans une démarche de résilience, qui ont déjà traversé un épisode d'épuisement et souhaiteraient être outillés et renforcer leurs facteurs de protection pour mieux faire face aux exigences de la vie de parents.
Très bien. Et les perspectives d'évolution pour ce projet, ce serait quoi ? Une fois qu'en 2024, les ateliers auront donné leurs résultats ?
Alors c'est de pouvoir agir en prévention. c'est-à-dire de réduire, de démontrer scientifiquement que ces ateliers soient efficaces sur la réduction significative du stress et de réduire les conséquences liées à l'épuisement parental, ce qui permettra d'une part de sensibiliser les acteurs publics à mettre en place ces ateliers. Mais au-delà de ça, le projet de recherche pourrait représenter un programme pilote qui peut encourager d'autres initiatives du même type dans l'optique de dessiner des pratiques efficaces et d'approfondir la compréhension et l'amélioration du soutien à la parentalité qui favorise à la fois un développement optimal de l'enfant, mais aussi une meilleure santé physique et mentale des parents. Peut-être
on valide, hein. On valide la santé mentale des parents.
Voilà, et peut-être rajouter que ce projet correspond à un enjeu crucial et qui a été mis en avant par les politiques publiques, mais aussi accentué par la pandémie de la Covid-19, notamment justement où ces périodes de confinement ont renforcé les facteurs de risque vis-à-vis de l'épuisement, l'éloignement des familles, le faible soutien social, comme l'ont démontré les dernières études les plus récentes.
Yes. Nos invités, si vous avez suivi un peu ces ateliers,
un peu beaucoup, je crois.
Un peu beaucoup. Qu'est-ce que cela, ça vous a apporté au quotidien?
Bah moi, je vais rebondir parce qu'effectivement, moi, je suis venue pour la cause résilience. C'est-à-dire que je savais déjà que je voulais un deuxième enfant et je ne voulais pas retomber dans ses travers. Donc, quand j'ai intégré les ateliers, je commençais quand même doucement à sortir de ça. Donc, j'avais commencé déjà par moi-même à trouver un peu des solutions. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis clairement... Voilà, on n'était pas tous au même niveau dans mon groupe. Il y en avait qui étaient vraiment en épuisement total. Moi, j'étais déjà dans la forme de résilience. Je valide vraiment ces ateliers à 200%. On a travaillé... Donc, en fait, nous, on travaillait un thème par semaine. Et donc, alors déjà, j'ai adoré le format, le fait qu'on ait des groupes de parole. En fait, déjà, ça libère de se dire on n'est pas seul. On est plein à traverser les mêmes choses. Ça, c'était hyper important. Évidemment, à titre personnel, la thématique du perfectionnisme m'a intéressée aussi bien au côté perso qu'au côté pro. Donc, je trouve que ça, au-delà du côté personnel, ça joue sur plein d'aspects. C'est ce qu'on disait une fois, on parlait de rouage. Voilà, on enclenche un rouage, ça joue sur plein d'autres rouages. Voilà, nous, on a beaucoup travaillé dans mon groupe la méditation pleine conscience. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé la marche pleine conscience parce que j'étais déjà dans une dynamique de marche, le physique, le corps. Voilà, je savais que j'avais besoin de sortir ma colère, ma fatigue, etc. par le sport. Voilà, donc moi, voilà, je valide vraiment ces ateliers et je pense au-delà des parents, voilà, on parlait de santé mentale, je pense que voilà, les enfants sont un déclencheur, mais je pense qu'on en a besoin un peu à tous les niveaux.
Je vais pas être mot dur parce que j'ai suivi les ateliers avec Chloé, donc j'ai eu la chance de la rencontrer dans ce cadre-là et la chance de pouvoir les suivre aussi parce que c'était les vendredis après-midi, donc j'avais la chance de pas travailler et de pouvoir y participer. Et ça m'a beaucoup confortée dans ma démarche aussi que j'avais déjà entamée avec beaucoup de lectures. Mais le fait d'être en groupe avec un accompagnateur... Alors, c'était très drôle puisqu'on n'était que des femmes. Mais notre accompagnateur, notre guide, c'était un homme. Et c'était très intéressant puisqu'il avait une vision qui nous permettait vraiment de travailler. Vraiment, j'ai trouvé ça, le lien et la façon dont il a mis en avant, d'une façon très bienveillante, dans l'acceptation, dans le non-jugement. Et il y a eu une dynamique de groupe tout à fait incroyable. C'est vrai qu'on s'est attaché assez rapidement et on y tenait à ce vendredi. Et c'est vrai que la dernière séance, on était toutes tristes que ce soit terminé et on voulait continuer. Puisqu'il y a cette dynamique, comme disait Chloé, c'est une fois que la parole se libère, et ben, tout le monde, on tombe les masques et on avoue que ben, nous aussi... Alors au début, on se regardait toutes et on se disait oh, « elle a l'air parfaite, pourquoi elle est là ?» Et quand elle commençait à se livrer, elle se disait « Ah mais elle aussi, elle connaissait cette... » Parce qu'on s'imagine tout ça. Quand on voit quelqu'un, on croit qu'il est mieux que nous et qu'il ne peut pas connaître ça et qu'on est tout seul. Et en fait, non, on a tous livré nos galères avec nos enfants, dans notre couple, dans notre vie professionnelle. Et finalement, ça nous a vraiment aidé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas toutes seules et qu'il n'y avait pas à avoir honte, il n'y avait pas à culpabiliser. Et que c'est finalement tout ça, on pouvait ressortir, grandir et rebondir et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et que finalement, Voilà, on va vers quelque chose de positif, et c'est ça la vie en fait. C'est une suite d'événements, d'expériences qui va faire qu'on va grandir. Donc vraiment une belle expérience que je conseille à tous les parents et aux papas aussi, parce que c'est dommage qu'il y ait, enfin, nous dans notre groupe il y a beaucoup de mamans, que des mamans. Mais la vie des papas est vraiment intéressante parce que ça nous permet aussi de contrebalancer avec notre esprit assez féminin, de vouloir être parfaite. Enfin, je pense que c'est quand même un trait de caractère plus féminin, je pense. Après, voilà. Et finalement, d'avoir ce point de vue des papas, ce serait vraiment encore plus enrichissant. Donc voilà, je recommande à tout le monde, si vous avez cette occasion-là, prenez-la, on n'en ressort que meilleur et que grandit, en fait. Voilà. Et mais un grand merci à Patrick Bobichon qui nous a coachés et qui nous a suivis avec bienveillance et patience.
Sébastien, peut-être une réaction ?
Ben, je vais déjà rebondir sur ce que vient de dire Aurélie à propos des papas, parce que moi, j'ai fait effectivement là, les 8 séances récemment. Et en fait, j'avais déjà fait aussi une formation il y a 5-6 ans au moment du burn-out de ma femme. Mmh. Et on va dire que sur 10-12 personnes, on était 2 papas maximum. Donc effectivement, il faut aussi trouver les moyens de motiver les papas à participer, parce que c'est extrêmement enrichissant qu'on soit tous ensemble dans ces formations. Et d'ailleurs, moi, je vais, Aurélie l'a mentionné un peu plus tôt, mais je vais également me former à la discipline positive pour essayer d'entraîner les papas qui sont de plus en plus ouverts à tout ça. Mais voilà, il faut un petit catalyse pour les motiver à venir aux formations. Donc j'ai bien envie de m'atteler à ce sujet. Et oui, je reviens un peu à ce que disait Aurélie Cleuse sur la notion aussi de communauté qu'on a créée avec les parents. Alors moi, une partie était déjà dans l'école de mes enfants et l'autre partie non. Mais on continue à échanger, on va se refaire une journée d'approfondissement ensemble avec notre formateur. En l'occurrence, puisqu'on peut citer chite Béatrice Sabaté, experte en discipline positive, particulièrement inspirante. Donc voilà, on a une communauté, on partage et on va se faire des ateliers. On réfléchit au sujet ensemble, on va faire des ateliers pour. Parce que c'est bien de faire la formation, mais je sais que mon expérience il y a 5-6 ans, c'est que un petit peu on y pense les premiers mois, puis au bout d'un an on oublie, puis on repart dans notre rythme de vie. Donc je pense qu'il est important d'entretenir par la communauté, entretenir ce qu'on a appris dans cette formation, et puis continuer à stimuler cette belle énergie. Moi plus personnellement, je fais l'imitation, mais j'ai vraiment profité dans cette formation de la notion de discipline positive. Et c'est vrai que j'ai beaucoup avancé en termes de posture, parce que c'est vrai quand on répartit les tâches avec ma femme, je peux bien être l'anglais, mais elle est un peu le good cop et moi le bad cop par rapport à la discipline, faire le devoir, etc. Et là, je me positionne beaucoup plus avec mes fils. J'ai l'impression d'être plus connecté à eux, plus présent en termes une relation plus qualitative. Et ça, c'était important que je sorte de ce rôle de bad cop, même si je le suis un petit peu. Mais avec plus avec une présence plus connecté, plus présence de meilleure qualité. Je rebondis aussi par rapport à ce que disait Chloé, par rapport au fait de voir les choses positivement. Mais en discipline positive, il y a un point qui est très important, c'est que on voit toutes les difficultés ou erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Et je pense que cet esprit est super important pour les familles et les enfants. Donc c'est vraiment de garder cette énergie de l'apprentissage dans la famille. On n'est pas dans le jugement, mais dans la recherche de solutions et les opportunités d'apprentissage. Et enfin, je dirais dans ces formations, il y a aussi des choses qui sont très concrètes en termes d'outils, que ça soit ne pas forcément résoudre les problèmes systématiquement quand ils sont là, laisser passer l'émotion, faire un temps de pause. Des recherches de solutions aussi en famille où on implique les enfants, qui sont aussi, je trouve puissantes. Les temps d'échange en famille pour partager plus en qualité, se remercier, féliciter les membres de la famille. Donc, il y aura des outils très, très concrets, mais qui, je trouve, apportent une belle énergie dans la famille. Donc, non, je recommande bien sûr vivement ces ateliers pour ce qu'on y apprend, pour les échanges qu'on a avec les parents, et puis c'est aussi une opportunité de prendre du recul.
D'accord. Donc Aurélie, tu vas nous le préciser, mais suivant les ateliers, c'est pas forcément les mêmes approches qui sont travaillées, c'est ça ?
Oui, effectivement, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs programmes qui sont évalués dans le cadre de ce projet, de manière à pouvoir aussi voir un petit peu les spécificités de chacun de ces programmes. Évaluer les pratiques les plus utiles selon le profil des parents.
D'accord. Donc, ce qu'il faut aussi entendre dans cette démarche et dans ces ateliers, c'est à la fois important pour les parents, on l'a entendu avec les trois témoignages, et puis aussi il y a un aspect contributif parce qu'on contribue entre guillemets à la science et à pouvoir dire quelles sont les approches qui vont être entre guillemets les plus efficaces dans telle ou telle solution, dans telle ou telle situation. Donc il y a vraiment un double aspect contributif. Voilà. Sur la question de la prévention, donc on a parlé de ces ateliers. Aurélie Gaucher, elle me rappelait aussi quelque chose qui est assez convenu, mais que moi j'aime bien qu'on se le redise quand même, parce que c'est pas si simple que ça à mettre en place au quotidien. En plus, on a beaucoup parlé, c'est prendre du temps pour soi. Donc on va écouter Aurélie.
Souvent les parents qui sont épuisés, ce sont les parents justement qui veulent tellement des bons parents, qui s'en oublient eux-mêmes et qui vont avoir tendance à mettre leur enfant en priorité en permanence. Mais finalement, c'est pas forcément être ça, être un bon parent. C'est aussi pouvoir prendre un peu de temps pour soi ou pour le couple aussi, et pour pouvoir recharger les batteries et ensuite pouvoir aussi bien s'occuper de ses enfants. Si le parent va bien, les enfants vont aller bien aussi. Mais si nous, on est épuisés, ben on va pas pouvoir prendre soin de nos enfants. Donc c'est pour ça que passer le relais quand on peut, faut vraiment pas hésiter. Et parfois, on culpabilise en se disant « mais mince, c'est plutôt à moi de m'en occuper », etc. Mais finalement, c'est aussi faire un cadeau, par exemple, aux grands-parents de leur laisser une soirée ou un week-end, parce qu'ils vont aussi avoir des liens privilégiés. Nous, on va pouvoir souffler et on sera encore plus content de les retrouver après. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à essayer de trouver du temps. Alors ça, c'est pas forcément tout un week-end, mais ça peut être juste ne serait-ce qu'une heure, même dans la semaine, de faire une activité où on se ressource et où quand on revient, on a un peu plus d'énergie pour pouvoir ensuite juste gérer notre rôle de parent aussi, quoi, et en profiter.
Donc on l'a entendu, hein, pour certains c'est la méditation, pour d'autres c'est la marche de pleine conscience. Aurélie, tu nous as pas donné tes petits tips prendre soin de soi, ce serait quoi alors?
La reconnexion avec mon corps.
Ouais.
Donc beaucoup plus dans l'écoute et aussi d'être gentille avec moi-même parce que j'étais un vrai tortionnaire. Et aussi avec mon mari. Et je suis contente de voir que... Enfin, Sébastien, j'aime beaucoup votre témoignage parce que votre femme, je pense qu'elle est contente d'avoir quelqu'un comme ça à côté. C'est pas le cas de toutes les femmes. Et franchement, chapeau.
Alors peut-être je rajoute quelque chose. Merci Aurélie de souligner que les compétences émotionnelles, les compétences sociales et aussi l'autocompassion sont des facteurs de protection significatifs qui ont été démontrés pour mieux faire face à l'épuisement.
D'accord, donc ouais, de l'autocompassion, de l'indulgence pour soi-même. Moi je voulais faire un petit appel aussi à toutes ces personnes qui entourent des parents de jeunes enfants qui dorment mal ou des parents d'enfants plutôt difficiles ou juste des parents qui sont pas forcément au top dans leur parentalité. Il y a la Baby Box qui est sortie, hein, qui offre une crème hydratante et une turbulette pour les enfants, c'est top. Mais comme l'a dit Aurélie, des fois offrir une sieste, un repas, du ménage, une place de concert aussi, ou aller, ou dire, bah non, là ce soir tu viens au cinéma avec moi et t'as pas le choix, tu prends une babysitter ou alors tu demandes à ton conjoint, mais faire en sorte aussi voilà d'instaurer des régularités, de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir. Et moi j'aime bien aussi, il y a une sage-femme qui s'appelle Anna Roy, qui a un podcast qui s'appelle Sage Meuf. Et quand elle rencontre des jeunes parents qui viennent d'avoir leur bébé, elle leur fait une ordonnance de temps de couple. Donc sa prescription, non mais attendez, hein, c'est très fort. Moi, mes enfants ont 3 et 6 ans, j'ai toujours pas réussi à le mettre en place, mais c'est 2 soirs de sortie par mois, un week-end en couple tous les 2 mois et une semaine de vacances entre adultes par an. Voilà, mais donc c'est
parfait ça.
Voilà, donc c'est des recommandations d'une professionnelle. Hein.
On en rêve toutes.
Voilà. Après, du côté des politiques publiques, hein, c'est vrai que là, on espère que l'expérience des ateliers parents BO va pouvoir se pérenniser. On disait, hein, donc il y a des tests en ligne pour se tester sur son épuisement parental. Il y a l'application des 1000 jours qui permet aussi vraiment de pouvoir donner des bases pour le suivi de la grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, donc, et qui propose aussi un outil de test pour l'épuisement parental. Et puis, donc, moi, j'irai peut-être un peu plus loin. J'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Erika Leclerc-Marceau, qui est comédienne et qui a fait du sujet de la parentalité le sujet de pas mal de ses spectacles. Et elle disait, il faudrait en fait un petit badge Je suis parent d'un enfant de moins de 5 ans. Donc, sous-entendu, je dors pas forcément très bien la nuit. Donc, ça me donne droit à arriver en retard au travail et à faire des siestes pendant la journée. Donc, moi, je trouve ça très bien.
Un badge d'immunité, un peu.
Ouais, bah, voilà, c'est, bon, c'est ça, quoi. Me faites pas chier.
C'est ça, me faites pas chier.
Et puis, moi, j'aimerais bien aussi qu'on imagine des lieux qui allient un peu le bien-être de l'enfant et le bien-être des adultes. Donc, il y a, bien sûr, il y a les ludothèques, il y a les lieux d'accueil enfants-parents, mais c'est des lieux où, en tant que parent, on va sur le terrain de l'enfant. Et moi, j'aimerais bien aussi des lieux où c'est plus les enfants qui vont sur le terrain des parents.
En boîte de nuit, tout ça.
Non,
au travail,
mais j'imaginais des happy hours. Genre des happy hours, voilà. Hein, mes happy hours de 16, 30, 18, 30, 19 heures, quoi.
Ouais, je sais pas.
Où, bah voilà, on peut à la fois être avec ses copains, siroter ce qu'on a envie de siroter. Et en même temps, avoir les enfants pas loin, pouvoir faire une activité parent-enfant, mais aussi être avec ses copains. Hein, de pas toujours devoir faire un compromis entre les potes et les enfants. Voilà, moi c'était mes petites envies du moment en termes de politique publique. On va essayer de mettre parents live sur le coup, promis. Et puis Isabelle et Moira, elles le rappellent aussi dans leur livre. Ah. Il est 13h, je crois. Non, 14h.
14.
Elle le rappelle aussi dans leur livre, quand on est en couple, hein, parce que là, on a beaucoup parlé des couples, mais il y a des familles monoparentales ou des parents qui ne souhaitent pas être en couple. Bref, la question de prendre soin de son couple, c'est important aussi, et de faire aussi la distinction entre le couple conjugal et le couple parental. Et puis de pas hésiter à se poser des questions sur l'éducation, et puis pour ça d'utiliser des jeux par exemple, ou des choses qui permettent d'avoir un petit peu un média et de pas être systématiquement dans le conflit par rapport aux questions d'éducation. Donc avec Parents Live, nous on a un petit jeu qui est en sorte de discussion sur les questions de parentalité et d'éducation et d'équipe parentale. Et puis on n'a pas parlé, mais il y a la question de l'intimité, de la sexualité aussi, hein, qui peut être un gros sujet ou un non sujet justement quand on devient parent. Et il y a un petit livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé. C'est Camille Bataillon qui l'a écrit. C'est un guide féministe inclusif, hyper bienveillant, et qui permet d'amener un sujet qui est pas si simple à discuter, mais avec quelques petits. Enfin voilà. Bref, j'arrive pas. Et puis Sébastien, t'étais là aussi pour le redire. La prévention, moi, ça passe aussi par l'engagement des papas, l'engagement du deuxième parent. Et puis que dès les suivis de périnatalité, on puisse faire une vraie place au papa en tant que coéquipier et pas juste en tant que aidant ou en tant que seconde main. Et puis aussi se dire que voilà, une grossesse c'est super, un bébé c'est super, mais on peut aussi parler des difficultés, et des difficultés pas simplement physiques. Donc la rééducation du périnée c'est super, mais avoir des outils de communication de couple dans le suivi de grossesse, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc et puis voilà, on dit aussi pas forcément se concentrer que sur la maman, mais voir aussi qu'est-ce qu'il en est pour le papa, qu'est-ce qu'il en est pour le couple. Et pour les questions de coparentalité, je vais finir par ma dernière petite recommandation. Il y a le RVP, donc le regroupement pour la valorisation de la paternité, qui a édité une campagne sur être coparent, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et autour des quatre piliers de la coparentalité, donc ils sont la communication, la reconnaissance, la cohérence et le partage des tâches. Et ils ont édité des petites vidéos et puis surtout des petites fiches pense-bête pour faire des tests à deux pour savoir où on en est dans son couple. Voilà, on vous mettra tout en ligne dans la description du podcast. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à prendre des notes. Voilà, et ben je crois qu'on en a fini pour cette 18e émission. Comme d'hab, on serait encore resté avec vous
un
petit moment.
Une heure de plus, encore facile si on pouvait. Exactement, on va terminer du coup. Flo.
Et oui, c'est encore moi qui dois parler.
Allez,
ouais.
Tu veux boire un coup?
Non, et oui, alors moi, après avoir fini de préparer cette émission, au moment d'écrire la conclusion, je me suis dit, en fait, il faut que je me dise un truc, le perfectionnisme, c'est mauvais pour la santé. Ouais, ça va être mon nouveau mantra, en fait. Bref, on a tous du boulot à faire, hein, on l'a vu en tant que maman et en tant que papa, on a tendance à se culpabiliser, à vouloir bien faire, mais voilà, on peut aussi trouver un peu plus d'équilibre dans tout ça.
Yes, merci à tous nos invités pour ces témoignages très intéressants, riches témoignages. L'intégralité de l'interview d'Aurélie Gaucher sera disponible en ligne en même temps que le live, Flo.
Oui, encore une fois, moi je vous recommande vraiment la lecture du livre d'Isabelle Roskam et Moira Mikolaïk en tant que futur jeune ou parent vétéran. Vous y trouverez forcément un guide clair et des pistes d'action concrètes pour comprendre et éviter l'épuisement qui mène au burn-out parental.
N'hésitez pas à nous écrire à ce sujet si ce sujet vous a plu ou pour proposer des thématiques d'émission. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ce qu'il faut.
Ouais, on vous invite tout à l'heure, on a une grosse journée chez Parents Live, on vous invite tout à l'heure au Café des Enfants pour deux rendez-vous. À 16h30, on se retrouve pour une petite rétrospective en vidéo et en podcast des mini-reportages qui ont été réalisés par les enfants lors du 2 octobre pour la rue aux enfants. Et puis à 20h, j'anime un temps d'échange, une petite visite guidée autour de la paternité et la coparentalité avec l'exposition La Place des Pères et toujours au Café des Enfants.
Et l'exposition, elle est également aux Abrets, oui, en Dauphiné, dans les communes alentours, jusqu'à fin novembre, dans le cadre du projet Papa, mené par la MJC EVS des Abrets et d'autres partenaires. Pendant 2 mois, Parents Live propose via Media Kids, le site où sont rassemblés plein de super projets, plein d'idées et plein d'actualités, une session de 4 ateliers avec les enfants du centre de loisirs et 3 shootings photos. Les super pouvoirs des papas. Retrouvez le programme en ligne et sur le compte Instagram.
Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, les Abrets en Dauphiné. En ce moment, ils font un super travail sur la paternité et la coparentalité. Et puis nous, on se retrouve donc le 11 janvier pour un live qui sera consacré à l'éducation sexuelle et à la prévention des violences sexuelles. L'idée, c'est de se dire comment et pourquoi on parle de sexualité avec nos enfants. Si vous souhaitez participer et préparer l'émission avec nous, c'est toujours possible, ou aussi témoigner. Vous pouvez nous contacter par parentlive.fr@gmail.com.
Merci beaucoup, Florence.
Merci à vous.
Merci à tous nos invités présents.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Sébastien en ligne. Merci Binge à la technique qui nous a permis de réaliser cette émission aussi. Et comme vous l'a dit Flo, on se retrouve le 11 janvier donc pour une nouvelle émission Parents Live, 19e du nom. Ça passe très vite, mais c'est toujours un plaisir.
Et puis merci à ceux qui nous ont suivis sur Instagram en live.
Exactement.
Pour la première.